Comment il fait? Je veux dire, je suis en train de dire ce qui compte dans le cinéma moderne, c'est d'une certaine manière les interstices, soit sous la manière des faux raccords, coupures irrationnelles, des points irrationnels, soit sous forme de l'écran blanc, l'écran noir valant pour lui-même. Encore une fois, pensez à l'importance de l'écran plumeux dans le dernier film de René. Et à quel point il a une valeur pour lui-même, c'est-à-dire à chaque moment où pourrait se faire un enchaînement dans l'histoire, il flanque son écran voltigeant, là son écran noir avec des grains voltigeants, des petites plumes voltigeantes, des électrons voltigeants. C'est le moment de la musique qui va précisément casser l'enchaînement. Bon, et il ne subsistera d'enchaînement que, précisément, celui des deux morts. La mort apparente, la mort réelle du personnage dont je parlais la dernière fois, puisque chez René, tout se passe toujours entre deux morts. Alors, on peut toujours objecter, mais quand même, il n'y a d'interstice que par rapport à des enchaînements subsistants. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, l'interstice cesse d'être subordonné à l'association des images. C'est ça qui me paraît très important. Quand l'interstice se met à valoir pour lui-même, soit comme coupure irrationnelle, soit comme écran blanc-noir, eh ben, l'enchaînement des images passe au second plan. Les images sont réellement désenchaînées, où il n'y a plus que des enchaînements locaux dont il faudrait chercher la loi. La loi, peut-être qu'on commencera à l'apercevoir la prochaine fois. Je dirais que ce sont, je le dis d'avance, comme ça, pour engager, pour ceux qui connaissent ça un peu, il faudrait dire que c'est des enchaînements, il y a un mot pour ça, en physique, en mathématiques, en calcul des probabilités, c'est des enchaînements semi-fortuits. Semi-fortuits. C'est un truc très spécial. C'est ce qu'on appelle exactement des chaînes de Markov. D'après un auteur célèbre, Markov, qui a étudié ce type d'enchaînement. C'est des enchaînements, c'est des morcelages, je dirais, c'est des morcelages réenchaînés. L'enchaînement n'est jamais direct. Il y a des opérations de réenchaînement par la coupure. Et c'est ça qui explique le renversement du rapport. C'est exactement du morcelage réenchaîné. Il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a que du réenchaînement. Mais enfin, on essaiera de comprendre ça plus précisément. Ça nous fera encore des mathématiques, c'est bien. Alors, je dis, la méthode de Godard, en effet, comment il fait pour arriver à ces désenchaînements? Vous voulez, je prends un cas qui a fait hurler, et en effet, un cas qui a fait hurler dans Ici et ailleurs. Le rapprochement de deux images, l'image de Golda Meir et l'image d'Hitler. Et là, quand même, en effet, ça. Et quels que soient les jugements sur la politique d'Israël, le rapprochement et l'enchaînement godardien dans Ici et ailleurs de Golda Meir et d'Hitler a quelque chose qui, pour beaucoup de spectateurs, ont été réellement insupportable. D'une certaine manière, je dirais, c'est le même problème, que c'est parce qu'on ne sait pas assez lire les images. C'est parce qu'on se contente de la voir, l'image. Si on la voit, il y a en effet quelque chose à la limite du supportable. Si on la lit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenir compte de tout ce que je viens de dire, l'image qui devient lisible. Je dirais l'ancienne image, elle était visible. La nouvelle image, elle est peut-être d'une certaine manière lisible. Mais ça veut dire quoi? Ce serait insupportable, ce rapprochement, si c'était une association qui franchissait même un interstice. Si c'était une association, même si cette association sautait par-dessus un petit vide entre les deux, il y aurait quelque chose de dur. Mais il se trouve que là, il est évident que dans le cas Goldamer, Hitler, Godard fait une provocation délibérée. Et pour la comprendre, au moins cette provocation délibérée, il faut voir comment il procède autrement quand il n'y a pas provocation. Il ne cherche pas du tout deux images semblables ou contiguës entre lesquelles se ferait l'enchaînement. Si vous enchaînez des images par ressemblance ou contiguïté, c'est évident que la coupure est subordonnée à l'association. C'est-à-dire, même s'il y a coupure, l'enchaînement des images saute par-dessus, c'est-à-dire la coupure est la condition minimum pour que le défilement, l'association se fasse. Mais justement, Godard ne cherche pas ça. Quand il a une image, il ne cache pas sa méthode, elle est très concrète. Quand il a une image, il se dit, avec quelle autre image, je vais la mettre en rapport. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une autre image semblable? Absolument pas. En d'autres termes, c'est la différence qui est première. Il est bien de son époque. Rappelez-vous les grands textes de Lévi-Strauss sur « On a toujours cru que la ressemblance était première par rapport à la différence et la différence qui est première par rapport à la ressemblance. Une structure, c'est une distribution de différences, etc. etc. » Bon. Mais une image étant donnée, Godard se dit « Avec quelle autre image je vais la mettre en rapport ?» les conditions n'étant ni celles de la continuité, ni celles de la ressemblance. Alors, qu'est-ce que les conditions, si c'est ni la continuité, ni la ressemblance? C'est-à-dire les associations dont on a parlé précédemment, comme faisant partie de l'ancienne image de la pensée. Vous vous rappelez, l'association par continuité, l'association par ressemblance jouait dans l'ancienne image de la pensée. Ça va être quelque chose de très différent. Ça va être quelque chose comme des conditions de, que on appellerait en physique, de disparition. De disparition. C'est-à-dire, choisir une autre image, dissemblable, lointaine, donc ni ressemblance ni continuité, mais de telle manière que entre les deux, quelque chose se passe. Mais ça implique un choix, c'est-à-dire ça implique là une création. J'ai une image. Je cherche à tout prix une autre image. Alors ça peut rater de deux manières. Première manière de rater, dans la méthode de Godard, ce serait retomber dans une simple association. Choisir une autre image qui serait semblable ou contiguë. Deuxième manière de rater, je choisis au hasard une autre image. C'est pour ça que les chaînes de Markov, ce n'est pas de l'aléatoire, c'est du semi-aléatoire. C'est du semi-fortuit, enfin, peu importe. L'autre manière de rater, je choisis n'importe quelle autre image. Il n'y a pas beaucoup de chance pour que quelque chose se passe entre les deux. Je veux dire, c'est un peu, mettons, et même pas, on ne peut pas dire que les surréalistes, je crois qu'ils sont restés très fidèles à l'association. Mais quand même, dans leur choix au hasard, on pourrait concevoir des choix au hasard d'un type surréaliste. Bon. Mais qu'est-ce qui se passera entre les deux images, si je les tire au sort? Il y a peu de chance qu'un phénomène, pour parler toujours comme un physicien, il y a peu de chance pour qu'un phénomène de résonance se produise. Donc, le problème godardien, ce serait choisir une autre image, différente et distante. Vous voyez, deux conditions anti-associatives, les deux conditions de désenchaînement, différentes et distantes, de telle manière que pourtant, quelque chose se passe entre les deux. Entre les deux. C'est la méthode du « entre ». Alors, dans « ici » et « ailleurs », c'est quoi ? Les images qu'il se donne, c'est le groupe de Fedayeen. Le film sortira, je ne sais plus combien de temps, 10 ans après, quoi. est toujours sur ces fédalines que vous avez entendu parler ou pas entendu parler, ces fédalines sont morts, etc. Et l'image qu'il va choisir, c'est un couple français, 10 ans après, dans ses rapports avec la télé, dans ses rapports avec la cuisine, dans ses rapports avec l'amour, etc. Bon, c'est pas rien. Il faut que quelque chose passe entre les deux. Il faut que, entre les deux, dans cette confrontation bizarre, qui ne se fait ni par ressemblance ni par continuité, quelque chose soit révélé, je dirais, à la lettre, qui n'appartient ni à la première image ni à la seconde. Ça, c'est la pure méthode Godard. Elle apparaît à l'état pur, si vous voulez, deux fois au moins, dans « Ici et ailleurs », d'une part, et d'autre part, dans « 6 fois 2 ». Mais elle est là tout le temps. Voyez que ça n'est plus un enchaînement d'images. C'est en effet un cinéma qui n'enchaîne plus les images. Pourquoi ? Parce qu'il procède par coupure irrationnelle. Il procède par incommensurable. Je dirais les deux images sont incommensurables. L'image des fédalines et l'image du petit couple français sont deux images incommensurables. Entre les deux, il y a vraiment une coupure. C'est une coupure irrationnelle à l'état pur. Et que ce problème de la coupure soit très conscient chez Godard, vous le trouvez dans Sauf qui peut, dans Sauf qui peut la vie. Vous trouvez les fameux arrêts sur l'image, les arrêts de mouvement. Du type, bon, où finit la caresse, où commence la gifle. Il y a une très belle séquence là, où le héros s'approche de l'héroïne, attend le bras, bon, où commence la caresse, où finit la caresse, où commence la gifle. Comprenez que là, il me semble, dans cette opération, par quoi il réfléchit sur son cinéma tout en le faisant, etc., je ne peux pas dire que ce soit de la réflexion abstraite, puisque toutes ces images sont construites comme ça. De même, si vous pensez, si vous vous rappelez dans Sauf qui peut la vie, la décomposition des attitudes pornographiques dans l'épisode porno, la décomposition qui est d'abord une décomposition visuelle des attitudes de corps, hein, et puis une décomposition sonore des sons, une décomposition des phonèmes. Bon, les procédés de décomposition sont constants. Alors, où finit la caresse, où commence la gifle ? Il faut le comprendre exactement là dans le schéma de Dedekind de tout à l'heure. S'il y avait une coupure rationnelle, on pourrait dire, la caresse finit à tel moment, ou bien dire, la gifle commence à tel moment. Et Godard, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe entre la caresse et la gifle. Coupure irrationnelle. Il s'agit de saisir cette coupure irrationnelle, cette entre la caresse et la gifle, qui n'appartient ni à la série de la caresse, ni à la série finissante de la caresse, ni à la série commençante de la gifle. En d'autres termes, deux images étant données, on en fera surgir une troisième qui n'appartiendra plutôt deux séries d'images étant données, on fera surgir entre les deux une troisième qui file pour son compte et qui n'appartient ni à la première série, ni à la seconde série. Là, il y a un procédé qui est réellement un procédé de désenchaînement des images. Et dès lors, si vous voulez, c'est ça l'interstice. C'est ça l'interstice et c'est ça le renversement. Lorsque l'interstice désigne une coupure irrationnelle, encore une fois, Il n'est plus au service des enchaînements d'images, à la manière d'un fondu. Au contraire, c'est l'enchaînement des images qui disparaît au profit de l'interstice, ou du moins ne subsiste de l'enchaînement qu'un réenchaînement. Sans même qu'il y ait eu enchaînement. Il peut y avoir qu'un réenchaînement distribué par l'interstice. Et dès lors, c'est la vocation naturelle, pas chez Godard, mais c'est la vocation naturelle de l'interstice, ainsi compris, de se développer. En écran blanc et en écran noir. Et je dirais encore une fois, là, pour résumer l'ensemble, l'écran blanc ou l'écran noir, c'est vraiment la forme du dehors. Le dehors ou l'envers de l'image. Tout comme la coupure irrationnelle, c'est l'interstice. Et la force du dehors se manifeste dans l'interstice. C'est ça le thème fondamental de, à la fois, l'image cinématographique et de l'image de la pensée. Si bien qu'on en a fini avec cette troisième mutation. Puisque, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'était confronter des mutations de l'image, à la fois image à la pensée et image cinématographique, à trois niveaux. Nos trois niveaux, c'était substituer la croyance au savoir, deuxième niveau, donnez-moi un corps, troisième niveau, la pensée du dehors. Là, on a fait notre tâche. Il nous resterait une quatrième mutation. À voir. Quatrième mutation. Cette quatrième mutation, mais je vais m'arrêter tout de suite parce que je voudrais que vous disiez, vous, un petit peu. Cette quatrième mutation, on l'a pressentie déjà. C'est ce qu'on commencera à faire la prochaine fois, mais là j'y tiens beaucoup aussi. Au lieu de vous imposer des mathématiques, je vous imposerai autre chose de pas plus gai. Ce serait donnez-moi un cerveau, vous comprenez, ça peut vouloir dire quoi, si je prenais ça comme formule d'un changement radical et dans l'image cinématographique et dans l'image de la pensée. Donnez-moi un cerveau. Alors, c'est comme pour le corps, je vous disais évidemment, ça ne veut pas dire donnez-moi un beau corps. Donnez-moi un cerveau, ça ne veut pas dire donnez-moi un beau cerveau. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un cerveau, on en a un, on a besoin de personne. D'accord, on a besoin de personne. Tout comme on a un corps, on a besoin de personne. Eh oui, mais après tout, on avait besoin de Blanchot pour découvrir quelque chose sur ce corps. Et peut-être que, comme disait Kierkegaard, ça voulait dire mettez-moi une écharde dans le corps. Bon, là, qu'est-ce que ça veut dire donnez-moi un cerveau? Et mettez-moi quoi dans le cerveau? Vous comprenez pourquoi ça s'enchaîne là. Si j'avais pas cette quatrième formule, donnez-moi un cerveau, vous pourriez me dire d'avance, il manque quelque chose. Parce que s'il y a un endroit, s'il y a un organe où se posent des problèmes alors de coupure, et des drôles de problèmes de coupure. Très joli de dire ça entre par le cerveau et ça sort du cerveau. Le réflexe, par exemple, bon, vous avez le message sensoriel, ça passe dans le cerveau et puis ça fait un mouvement moteur. Quand même, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Donnez-moi un cerveau, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que peut-être deux choses ont changé, là aussi, entre les guerres, cette fois pas à cause de la guerre, ou bien si, peut-être que la guerre est pour quelque chose là-dedans. Moi, j'ai l'impression de deux choses. Je crois qu'il ne faut jamais chercher qui est en avance ou pas. Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la science? Dans la richesse des choses, on ne sait jamais qui a commencé. Mais moi, j'ai le sentiment de deux choses. Que les savants, que la science du cerveau, s'est développée intensément depuis la guerre, si bien que la science nous propose aujourd'hui des modèles cérébraux d'une toute autre nature. C'est très lié au problème de l'automate. Tout ça, on retrouvera donc. Tout ça, ça va très bien avec les problèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est d'une autre nature. Et qu'il y a des chaînes du cerveau aujourd'hui, des modèles cérébraux qui font frémir. Quoi. Qui font frémir. Pourquoi ? En fonction des coefficients d'incertitude, pas du savoir, mais des coefficients d'incertitude fous qui frappent les opérations cérébrales. Je veux dire, la manière dont le cerveau ne peut plus être pensé d'une manière dite déterministe, mais où l'on doit faire appel à des schémas probabilitaires, ou pire, ou à des schémas aléatoires dans la réception et la communication d'un message, qui rendent notre impression du cerveau là, de plus en plus fragile. Je dis de plus en plus fragile. Je veux dire, c'est comme une écharpe dans la chair. Donnez-moi un corps, ça voulait peut-être dire. Il faut bien que mon corps ait son écharpe. Mais donnez-moi un cerveau, ça veut peut-être dire. Il faut bien qu'un jour à l'autre, je m'aperçoive que le cerveau est l'organe le plus fragile, le plus aléatoire de tous mes organes. Est-ce que la science nous l'apprend ? Peut-être. Mais ce n'est pas de la science, ce n'est pas la science que nous appliquons quand nous pensons notre cerveau. Nous avons certains rapports avec nos chacun de nous a ses rapports avec son cerveau, tout comme on a des rapports avec son corps. C'est de ça dont je veux parler. C'est des rapports vécus avec le cerveau. Non seulement nous avons une science du cerveau, quand je dis nous, ça renvoie à ceux qui la font pour nous, les spécialistes du cerveau, mais, indépendamment d'eux, nous vivons d'une certaine manière notre rapport avec le cerveau. Je dis, de même que, et pas du tout l'un par l'autre, ce n'est pas la science qui a changé le rapport vécu que nous avons avec notre cerveau. Là, je pense, et là je fais une grande contribution pour, au problème de l'incompréhension des générations, j'ai le sentiment que on ne vit plus, que nous ne vivons plus notre rapport avec le cerveau, avec notre cerveau personnel, de la même manière que, mettons, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Non seulement les schémas scientifiques, les modèles scientifiques ont changé, mais ce n'est pas par application scientifique, c'est qu'en même temps et d'autre part, notre rapport vécu avec notre cerveau a changé. Nous n'en attendons peut-être pas les mêmes choses, nous en attendons d'autres choses. Ça, c'est du vécu. Là aussi, la fatigue latente m'est devenue cérébrale. La fatigue latente. Avons-nous la même fatigue ? Quel est notre rapport vécu avec notre cerveau ? Tout comme j'essayais de dire, quel est notre rapport vécu avec notre corps ? Alors, il ne faudra peut-être pas s'étonner que, de même qu'après la guerre, s'est développé un cinéma des corps, que j'ai essayé de commenter en même temps que j'expliquais la formule « Donnez-moi donc un corps », que le cinéma d'après-guerre ait lancé un nouveau cinéma du cerveau. Un cinéma du cerveau, il y en a toujours. Et à mon avis, c'est un des grands apports du cinéma dit expérimental depuis. Et il y a un cinéma expérimental depuis la naissance du cinéma. Mais la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un cinéma du cerveau qui a pris une toute nouvelle forme après la guerre ? Vous voyez que notre problème est à nouveau triple. Les modèles cérébraux, notre rapport vécu avec le cerveau, la possibilité d'un cinéma moderne du cerveau. Et si je voulais faire des symétries là, faciles dans une histoire du cinéma, tout serait bien après tout. Parce que j'ai dit pour le cinéma des corps, j'ai pris un Américain. Il y en a d'autres, mais j'ai pris un Américain parce que celui-là me paraissait génial. C'était Cassavetes. disait, voilà, c'est ça, cinéma des corps. Attitude et gestus, si vous vous rappelez. Et tout l'espace subordonné à l'attitude et au gestus. Et puis je disais, d'autre part, la nouvelle vague. Godard, Rivette font un cinéma des corps. Et là aussi, à base d'attitude et gestus et réduction de l'espace à l'enchaînement des attitudes dans le gestus. Un grand cinéma du cerveau, je crois que là aussi, bon, alors il nous faudrait un Américain et un Français, ce serait, bon, comme exemple, il y en a bien d'autres. Je dirais, il y a bien un Américain dans tout le cinéma. Un cinéma du cerveau, c'est un cinéma qui nous présente le cerveau comme monde. Dans le cinéma américain, il y en a un qui a fait ça. Le cerveau monde, c'est Kubrick. C'est Kubrick, bon. Quelle conception du cerveau, quelle image cinématographique du cerveau. Une fois dit que j'entends pas par image cinématographique du cerveau, filmer un cerveau. Pas plus que je n'entendais pas le cinéma des corps, filmer un corps. Ça peut comporter ça. Ça peut comporter ça. Mais évidemment, c'est pas ça. C'est le monde comme cerveau, le cerveau comme monde. C'est ça le cinéma de Kubrick. Et puis en France, un auteur qui a évidemment rien à voir avec Kubrick, mais qui me semble bizarrement le même projet, mais il va le mener d'une toute autre façon, on en a déjà un peu parlé, c'est René. Chez René, là, le monde cerveau, le cerveau comme monde et le monde comme cerveau, devient l'objet suprême du cinéma. Prenez toute la mémoire du monde, c'est quoi? C'est la Bibliothèque nationale comme monde, mais chaque élément de la Bibliothèque nationale, il y a un très bon critique de René, un très bon commentateur qui s'appelle Bounour, qui dit, le type qui pousse les chariots, la rempli de livres, se comporte absolument comme un messager neuronique. Il se comporte comme un messager neuronique dans le film de René, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale, elle est monde, elle est aussi cerveau. Elle est cerveau, elle est aussi monde. Je veux dire, c'est un film du cerveau-monde. Bon, eh bien, chez René, justement, il est évident que les processus cérébraux, et il l'a toujours dit, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il a toujours dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Ou ce qui se passe dans la pensée. S'il a pris comme collaborateur Laborie, dans Mon oncle d'Amérique, c'est pour exposer explicitement, non pas une théorie, ça Laborie s'en charge, de faire une théorie du cerveau, mais c'est pour faire explicitement un cinéma du cerveau. Dans le film qui a été si mal reçu par le public, qui est un des plus beaux René, Stavisky, René explique que si Stavisky est complètement déséquilibré, c'est parce que tout s'explique par ceci, qu'il vit avec deux moitiés de cerveau non synchrones. Tiens, ça devrait nous intéresser, parce que je parle rapport vécu avec le cerveau. Est-ce que, contrairement à il y a bien longtemps, est-ce que nous avons gardé la synchronie de nos deux moitiés de cerveau? Est-ce que ça fonctionne synchrone? Est-ce qu'un nouveau cinéma du cerveau, ça ne va pas nous apprendre ce que nous savions en secret, que nos deux moitiés de cerveau ne sont pas du tout synchrones? Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas synchrone? Est-ce que ça donne les malheurs, à la fois les splendeurs de l'escroc Stavisky et sa fin incertaine, sa fin dont on ne sait pas ce qu'elle a été avant, mais deux moitiés non synchrones, bon, ça c'est un thème qui excite René. Si vous prenez par exemple, si je cherchais à faire des différences faciles, René Godard, c'est évident qu'il ne s'intéresse pas au même problème. Pour Godard, il s'intéresse beaucoup à la pensée. Pourtant, tous les deux sont de très grands penseurs cinéastes. Mais je dirais, pour Godard, le cerveau, c'est une dépendance du corps. Et on ne peut pas dire qui a raison, qui a tort, toujours, si vous voulez, ça ne veut rien dire. Pour René, le corps, c'est une excroissance du cerveau. L'un n'est pas plus abstrait que l'autre. Hein. Ce n'est pas question abstrait concret. Parce que dans le cerveau, il y a autant de passion. Et le cerveau, ce n'est pas un processus raisonnable, ce n'est pas un système raisonnable. Hein. Le monde n'est pas rationnel, mais le cerveau, il n'est pas raisonnable. Donc le monde cerveau, il se caractérise pas spécialement par une logique exquise. Hein. C'est un lieu de passion. Vous avez, là, dans votre cerveau, vous avez, alors, est-ce que c'est des centres? C'est douteux que ce soit des centres, mais vous avez des pulsions de jalousie. Des pulsions de jalousie, des pulsions de meurtre, de mort. Vous avez des pulsions de suicide, etc., qui animent le cerveau au monde, autant qu'elles animent le corps. Donc, je dis, c'est pas une différence du tout. Mais ça me semble évident qu'il ne s'intéresse pas du tout. Et il faut, un cinéma extrêmement différent. Un cinéma du corps, des attitudes du corps et des gestus qui relient les attitudes du corps, d'un côté. D'un autre côté, un cinéma des sentiments dans leur enracinement cérébral. Des liens entre ces sentiments. Des liens cérébraux entre ces sentiments. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau? Bon, ça c'est le problème de, René. Si bien que le point où nous en sommes, là on va arrêter, je vais vous expliquer. C'est ce dernier point qui nous reste pour en finir avec notre programme. Il nous faudrait, la prochaine fois, commencer déjà à débrouiller qu'est-ce qu'a pu être, même au niveau de la science, entre l'avant-guerre et l'après-guerre, le grand changement dans une conception scientifique du cerveau. Il faudrait arriver à le faire aussi, d'une manière aussi simple, si vous voulez, que tout à l'heure pour l'histoire du théorème de Pythagore. Il faudrait repérer des grands axes qui ont changé, qui posent pas le problème de la même manière, quoi, les biologistes, au niveau du cerveau, et pour des raisons très simples. C'est ça. Et il faudra, d'une manière indépendante, se demander en effet de quelle manière aujourd'hui nous vivons. Notre rapport avec le cerveau, avec la fragilité du cerveau. Mais j'ai le sentiment que nous avons pris une conscience, ce n'est pas un progrès, nous avons pris une conscience de la fragilité du cerveau, qui hélas décourage beaucoup d'entre nous de penser, parce qu'ils se disent, mais qui est un phénomène, je suis très frappé dans les études psychologiques sur le corps, ça n'intervient jamais, enfin, à ma connaissance, cette histoire. Du temps où déjà l'existence, Merleau-Ponty parlait tellement du corps vécu, tout ça. Le rapport vécu avec le cerveau, on n'en parlait jamais. Je crois que le rapport vécu avec le cerveau, c'est une détermination de notre rapport avec le corps très, très, très profonde. Notamment aussi bien générateur de joie que générateur d'angoisse. Là, il y a quelque chose qu'il faudra chercher. Alors, ce que je vous demande pour la prochaine fois, c'est de réfléchir à l'ensemble, quand même, puisqu'on touche à la fin de ce programme. Parce que j'aimerais que vous parliez aussi, que vous voyez comment le compléter, à partir de... que vous repreniez, vous, que vous ayez relativement présent à l'esprit, ces trois premières mutations. Celle de la croyance, celle du corps, celle du dehors. Une fois dit qu'il nous reste la quatrième mutation, celle du cerveau. Alors, si vous aviez des questions à poser sur les trois premières, on commencerait par là. Et puis, on attaquerait la quatrième, qui est la dernière. Voilà.